Conférence spirituelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 3 juillet 2002 à Saint-Judard.
La philosophie commence par l'expérience. Toute véritable philosophie est une recherche de l'homme dans toutes ses dimensions, donc une recherche de la personne de l'homme. Notre personne est très riche. La foi chrétienne commence par un acte de foi. Quand avons-nous pensé notre premier acte de foi? Je crois que c'est impossible de se le rappeler. Si on avait une mère chrétienne, si on a eu une mère chrétienne, on a fait notre acte de foi avec elle. On ne savait pas très bien ce que j'étais, ils m'ont répété. Et il y a un moment, on a pris conscience de ce que c'était un acte de foi. Un acte de foi qui s'adressait directement à Dieu, comme Père, notre Père qui est aux cieux. Et on avait un contact direct avec Dieu qui nous engendre à la vie divine. Et par la parole de Dieu, nous avons pris conscience que l'acte de foi était un acte qui nous était demandé par Dieu pour qu'on devienne ses fils, ses enfants, ses amis. La première expérience que nous avons faite des réalités, elle est aussi très forte, très cachée. Vous ne vous rappelez pas de la première expérience que vous avez eue. Actuellement, vous pouvez vous rappeler que vous entrez en philosophie réaliste par l'expérience que vous avez de la nature, du ciel, des autres hommes, de l'ami. Puis, vous avez progressivement remonté jusqu'à l'existence d'un être premier. Ça n'a pas été très explicite, peut-être, pour vous. Pour ceux qui ont fait de la philosophie, oui. Et souvent, c'était négatif. Ils ne pouvaient pas remonter jusqu'à Dieu. Depuis le XIVe siècle, chez un théologien, il a nié ça. On ne pouvait pas remonter jusqu'à Dieu. alors que l'Église n'a cessé de proclamer que le péché, les conséquences du péché originel touchaient notre volonté, mais ne touchaient pas notre intelligence, comme intelligence. Nous avons la même intelligence qu'Adam. C'est formidable, ça. Qu'Adam. Je ne dis pas qu'Adam a fait de la philosophie, j'en sais rien. Mais c'est peut-être, après tout, Adam n'était pas bête, sûrement pas. Et Adam aimait Ève, peut-être un peu trop. Ève a été pour lui occasion de chute. Adam et Ève ne sont pas des mythes. L'Église nous demande de croire que Adam a existé, que Ève a existé, comme un individu, comme une personne. Et que Adam et Ève s'aimaient. Et ça devait être une personne très imposante, Adam. Nous le verrons plus tard. Si vous êtes intimidé, je vous servirai d'intermédiaire. Parce que quand nous reverrons Adam, ça sera quelque chose quand même, hein. Dans notre vision béatifique de Dieu, nous verrons tout le déroulement depuis l'apparition d'Adam jusqu'à la croix, cette grande montée. Et nous comprendrons que la conséquence du péché, c'était d'être chassé du paradis terrestre. Le paradis terrestre était dans notre nature humaine le premier état que nous avons connu. Notre nature humaine a connu cet état originel avant le péché. Notre nature humaine, c'est pour ça qu'on a des nostalgies de bonheur, de vie harmonieuse, parce que notre nature humaine a connu ça en Adam. Il y a une mémoire de l'humanité. C'est pas commode à comprendre, mais il y a une mémoire de l'humanité. Et l'humanité, en Adam et Ève, a connu cette espèce d'harmonie merveilleuse du paradis terrestre. Notre humanité, la nôtre, a connu la faute à tel point que nous naissons entachés du péché originel. Ça prouve bien qu'on a connu la faute. En Adam et en Ève, en nos grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents. Mais ils étaient responsables de l'humanité. Et comme ils étaient responsables de l'humanité, leur faute a marqué l'humanité qu'ils devaient transmettre. c'est un mystère. Hein. La faute d'Adam et Ève, c'est un mystère. C'est-à-dire que c'est au-delà de la compréhension philosophique. Philosophiquement, je ne peux pas parler de la faute première. Je peux seulement dire que la nature humaine est un peu déséquilibrée en chacun d'entre nous. Le déséquilibre n'apparaît pas de la même façon chez l'homme et chez la femme. Le déséquilibre n'apparaît pas de la même façon chez l'homme de la Méditerranée ou chez le Nordique. Sûrement. Nous sommes un peu déséquilibrés. Mais l'intelligence n'a pas été touchée par le péché. Et ça, l'Église y tient beaucoup dans cette affirmation. Tandis que les protestants, luthériens, calvinistes et les autres affirment que l'intelligence a été sapée par le péché originel, de sorte qu'elle ne peut plus, par elle-même, découvrir la vérité. Elle a besoin de la grâce. C'est très vrai que nous avons besoin de la grâce pour pouvoir chercher laborieusement la vérité. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais, cependant, si nous devons chercher la vérité, c'est parce que notre intelligence n'a pas été touchée par le péché. Notre intelligence peut connaître la vérité. Notre intelligence peut découvrir le mal du péché et découvrir que c'est quelquefois très laborieux, très difficile de chercher la vérité. C'est très pénible. C'est vrai. Ça ne se fait pas tout seul. Et nous invoquons le Saint-Esprit. Nous lui demandons d'être là, de nous aider. Mais l'intelligence, parce qu'elle est tellement essentielle à la vie de l'âme spirituelle, elle émane de l'âme spirituelle, elle provient de l'âme spirituelle. Mais la nature spirituelle, l'intelligence, si elle se développe quant à son intelligence, c'est qu'elle veut justement découvrir par elle-même que nous sommes dépendants d'un Dieu créateur de notre âme. Et ça, nous le croyons. Donc, le point de départ de l'humanité, c'est Adam et Ève. Mais Adam et Ève n'ont pas su garder intégralement leur richesse. Ils ont péché gravement par orgueil, un péché d'orgueil, le péché d'Adam et d'Ève. Espérant arriver par eux-mêmes à découvrir tout ce qui nous est donné par la parole de Dieu. Adam et Ève se sont révolté d'être soumis à la réalité. Ils ont pensé découvrir en eux-mêmes et par eux-mêmes une connaissance parfaite de Dieu. Et cette faute, elle demeure toujours, l'orgueil, vouloir tout faire par soi-même, ne pas accepter qu'un autre nous aide, ne pas accepter que le Saint-Esprit nous aide. Et toute l'histoire sainte rapporte comment, progressivement, Dieu s'est penché sur cette humanité. Et Dieu s'est penché sur cette humanité en donnant à l'humanité un don merveilleux. Dieu a voulu tout reprendre d'une manière infiniment grande. D'abord par les prophètes, mais les prophètes annonçaient quelqu'un qui allait venir. Et ce quelqu'un qui allait venir, c'est Jésus. Et il a voulu vivre tout ce que représente la fragilité, la petitesse de l'enfant. Dieu s'est fait petit enfant de Marie. C'est ça qui est extraordinaire. Le Créateur de Marie a voulu que Marie soit la mère de son Fils bien-aimé. Ça, il n'y a que Dieu qui peut arriver à un tel amour, venir nous chercher dans notre faiblesse et nous prendre tout à lui. Et Saint Jean, dans son évangile, la dernière révélation, c'est Saint Jean. L'ultime révélation, c'est Saint Jean. L'Apocalypse, l'Évangile, la première épître de Saint Jean. La seconde aussi. Elle est très courte. Et Dieu a voulu tout reprendre par le Christ. Et nous devons revenir toujours à ce mystère de la parole de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu par la foi. Nous ne la recevons pas comme une philosophie. Nous la recevons comme une parole d'amour qui nous est donnée par un Père. Et toutes les paroles de Dieu sont conservées dans la Bible. Et l'ultime parole de Dieu, la dernière, c'est l'évangile de Jean, les épîtres de Jean et l'Apocalypse. C'est très étonnant de voir cela. aussi, nous avons aimé très spécialement l'évangile de Jean, parce qu'il nous donne l'ultime révélation sur le mystère de Dieu, sur le mystère de Marie, sur le mystère de l'Église. Et saint Jean nous montre le point de départ de la foi. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Voyez, le début de son évangile. La première chose que Jean nous demande de recevoir, au commencement était le Verbe. Le Verbe. Nous savons, seconde personne de la très sainte Trinité, Dieu, dans l'Ancien Testament, s'était révélé comme l'unique. Dans le Nouveau Testament, par Jésus, il se révèle dans et à travers une trinité de personnes. Et la seconde personne de la très sainte Trinité, elle nous est présentée, elle nous est révélée par saint Jean. Au commencement, in principio, était. C'est la révélation du Verbe, c'est-à-dire Dieu est esprit. Le Père est esprit, le Père se connaît, et le fruit de sa connaissance, c'est le Verbe. C'est Jean qui nous révèle cela, c'est une des révélations très propres à saint Jean, le Verbe. Nous avons une certaine expérience de ce que c'est que notre connaissance. Quand on connaît quelque chose, on l'exprime. Père. Qu'est-ce que c'est que le Père? C'est celui qui est à la source d'un autre être, le Fils. Et le Verbe est le fruit éternel de cette contemplation du Père sur lui-même. Et tout de suite, l'évangile de Jean nous révèle le mystère du Verbe. Jésus, durant sa vie de prédicateur, d'apôtre, n'a jamais dit « Je suis le Verbe de Dieu ». Il a fallu que ce soit Jean, à la fin du premier siècle, sans doute en l'an 90-91, c'est merveilleux de nous faire comprendre que le secret intime de Dieu, son Fils, sa lumière, elle est venue dans notre monde en s'incarnant, en Marie, pour être à l'extérieur comme le petit enfant de l'homme. En réalité, il n'était pas le petit enfant d'un homme, il était l'enfant de Dieu. Il était Dieu lui-même, aussi parfait que son Père, un avec lui, ayant toutes les qualités. Il est venu, envoyé par le Père, pour nous sauver. Le grand mystère de l'incarnation, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe est devenu un petit enfant, l'enfant de Marie. D'une façon miraculeuse, d'une façon absolument parfaite, le petit enfant Jésus avait toutes les qualités qu'un petit enfant, qu'un embryon peut avoir. Et il a voulu être pour nous, non pas un nouvel Adam tout de suite, il a été un nouvel Adam. Adam n'a pas eu de père sur la terre. Adam venait directement de Dieu. Jésus a voulu, lui, prendre cet état d'un petit enfant, se faire tout petit, enfant, infans, celui qui ne parle pas, celui qui est le Verbe, le fruit de la contemplation du Père, a voulu se donner à nous comme celui qui ne parle pas, infans, par amour pour le Père et pour nous. Et c'est le début de l'évangile de Saint Jean qui nous donne cette vision merveilleuse. Au commencement, en arché, dans le principe, était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement. Le Verbe, c'est la seconde personne de la très sainte Trinité. Il est tout entier relatif au Père. Il vient de lui. Et le Verbe qui est identique au Père, qui est éternel comme le Père, qui n'a pas eu de commencement, a voulu venir au milieu de ses créatures. Il a voulu faire entièrement le parcours humain, le parcours d'un petit enfant. Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de tous les hommes, a voulu entrer dans l'espèce humaine en se faisant par son corps, par la formation de son corps en Marie, dépendant d'une petite créature, d'une femme. Tellement il aime cette créature, tellement cette créature et pour lui quelque chose qui doit être admirable, limpide, pur, aimant. C'est merveilleux, c'est de la folie de la part de Dieu, c'est la folie de l'amour. Parce que quand on aime, on veut être tout proche de celui qu'on aime. Et Dieu a voulu être tout proche de nous, par le point de vue de l'incarnation. Être petit enfant. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. On y adhère par la foi. On y croit. C'est justement ce qu'il y a de si extraordinaire dans la foi, c'est que par la foi, notre intelligence s'ouvre à la parole de Dieu. Et notre intelligence, transformée par la foi, reçoit la parole de Dieu et y adhère. Le premier objet de notre foi surnaturelle, c'est de croire à l'incarnation. C'est de croire que le Verbe de Dieu a voulu descendre sur terre dans le sein de Marie. Il a voulu connaître cette petitesse de l'enfant, cette dépendance de l'enfant. Il a voulu être formé dans le sein de Marie. Être formé. La foi, c'est un don que Dieu nous a donné. Notre âme est un don de Dieu. Notre corps est un don de Dieu par l'intermédiaire de nos parents. Mais la foi est un don de Dieu. Et on veut comprendre ce don de Dieu. Dieu a voulu lui-même s'incarner. Le Père nous a envoyé son Fils pour s'incarner. Et son Fils, qui ne fait qu'un avec son Père, a accepté cela par pur amour. Ça dépasse toute raison. Dieu qui se fait petit enfant pour corriger, pour purifier cette humanité. Notre humanité a cette noblesse d'avoir parmi ses membres Dieu a voulu que lui-même vienne au milieu de nous pour nous sauver. C'est là où nous touchons vraiment cet amour purement gratuit. Vous voyez, Sartre, dans toute sa philosophie, a voulu découvrir ce que c'est que l'acte gratuit. Il était hanté par ça. découverte gratuite. Il n'existe qu'en Dieu, par pur amour. Notre amour n'est jamais absolument gratuite. On voudrait bien, quand on aime beaucoup quelqu'un, on lui dit « je t'aime tout à fait gratuitement, je t'aime par pur amour ». C'est jamais absolument vrai. On s'en aperçoit durant les mauvais jours, où la gratuité se change en exigence. On rappelle qu'on a aimé et qu'on aime gratuitement. Et le rappeler, c'est déjà quelque chose qui ne fait plus partie de la gratuité. On rappelle ses droits parce qu'on aime. Toute notre vie chrétienne a commencé par un acte gratuit de Dieu, par pur amour. C'est une folie de l'amour. La vie chrétienne est ça. Puisque nous sommes sauvés parce que le Verbe s'est incarné. Le Verbe s'est incarné pour nous sauver, pour nous délivrer de la faute, pour faire de nous des enfants de Dieu. Et nous recevons cet acte gratuit de Dieu par la foi. C'est dans la foi qu'on reçoit ça. Alors, la foi, c'est un acte d'intelligence surélevé, transformé par un don gratuit de Dieu qui s'appelle la foi, qui permet à notre intelligence de recevoir ce don gratuit de Dieu. La vie chrétienne devrait, puisqu'elle commence par la gratuité, aller de gratuité en gratuité. Le don du Christ, le don du Christ à Bethléem, le don du Christ au calvaire, c'est de la gratuité toute pure. Dieu se donne gratuitement et nous le recevons dans la foi. Notre intelligence est mobilisée par la foi. Elle veut marcher. Elle est assumée par la foi. La foi, c'est ce premier acte qu'il faut comprendre, recevoir, parce que ça nous dépasse complètement, recevoir ce don d'amour. Dieu se donne à nous par Jésus. Et Jésus sait que les hommes ne le recevront pas. Et que les hommes, alors que Dieu se donne gratuitement, ne pourront pas vivre de cette gratuité. Le Christ sera mis à mort. Lui qui était donné dans la pure gratuité, les hommes ont mieux aimé se libérer de lui parce qu'il venait les troubler, parce qu'il venait au nom les hommes ont préféré leur petit bonheur. Et c'est ça qui arrive tous les jours. Plutôt que de recevoir gratuitement un amour infini. L'amour du cœur. Il faut tout le temps revenir à cela. Voyez, on revient constamment, je vous disais hier, à l'adoration qui regarde notre nature humaine dans ce qu'elle a de plus noble, de reconnaître qu'on est dépendant de Dieu. Et on revient par la foi, dans un acte de foi, on revient toujours au point de départ de notre vie chrétienne. Il faut tout le temps revenir à cet acte gratuit du Père qui par pur amour, uniquement par amour pour nous, nous a donné son Fils, sachant très bien que les hommes ne le recevraient pas. Cela avait été prophétisé. Israël, le peuple choisi, n'a pas reçu ses prophètes. L'homme n'aime pas d'être dérangé. Il aime d'être un petit bourgeois, à sa taille. La foi, ça nous dérange, parce qu'il faut vivre comme Dieu. Ce n'est pas notre habitude. Il faut vivre comme enfant de Dieu. L'intelligence cherche à connaître, c'est très bien. La foi, elle est toute tendue vers l'amour.